Bonjour Serge Daniel.
Bonjour.
Que sont devenus les djihadistes qui avaient pris le contrôle du Nord Mali il y a 2 ans?
À mon avis, ils sont revenus, ils sont en train de revenir, parce qu'il n'y a pas eu de véritable bataille entre les djihadistes et les forces étrangères. Les forces étrangères, notamment françaises et tchadiennes, ont été les chercher à la fourchette, à l'escargot, si vous permettez l'expression, au nord-est. Mais entre-temps, ils se sont disséminés dans la nature, ils ont été dans les pays voisins, il y a un couloir entre la Libye et le Mali. Et aujourd'hui, ils sont en train de revenir. J'en ai rencontré, justement, sur le terrain, à moins de 50 kilomètres de Gao.
Ils sont revenus, c'est-à-dire dans les villes du Nord Mali qu'ils occupaient.
Dans la périphérie, je vous raconte par exemple cette anecdote, ce mois-ci, à 70 kilomètres de Tombouctou, ils ont été dans le marché s'appelle dans la localité des Zouérates, ils ont distribué publiquement des tracts. À Gao, à 10 kilomètres, à 20 kilomètres de Gao, par exemple, ils ont fait pis, ils ont pris le contrôle d'une localité toute une après-midi.
Alors quel est l'objectif aujourd'hui, quel est le plan de ces djihadistes?
C'est simple, le temps nous assassine, nous autres, mais eux, ils assassinent le temps. Ils jouent contre la montre, ils estiment que tôt ou tard, ils vont reprendre les localités. Ça se passe d'abord pour le moment par la guérilla, les attentats et les roquettes qui tombent sur les localités.
Ont-ils changé de stratégie depuis l'intervention française?
Ah oui, ils sont plus discrets parce que vous les voyez, parfois même on les rencontre, ils sont rasés, ils se rasent, ils passent
inaperçus. Rasent la barbe.
Ah oui, tout à fait, oui. Ils rasent la barbe pour ne pas être connus, ils se font plus discrets. Ils ont abandonné les véhicules, vous les voyez circuler à dos de chameau parfois dans le désert.
Et quels sont les groupes les plus puissants aujourd'hui?
Il y a 3 groupes aujourd'hui. Vous avez le groupe dirigé par Yahya Abou Hammam, qui dépend directement, qui est adoubé par Al-Qaïda mère. Vous avez ensuite le groupe qui a fusionné, le Mokhtar Belmokhtar, qui d'après mes informations est plus vers la Libye aujourd'hui, avec le Moujaou, une branche du Moujaou. Et vous avez un troisième groupe, qui est un groupe de Touareg, dirigé par un certain Bada.
Et ces groupes sont quand même en rivalité?
Ils sont pas en rivalité, puisque le point commun, l'ennemi commun, c'est le gouvernement malien. L'ennemi commun, ce sont les forces occidentales. Ce sont des groupes qui sont sur le même terrain, donc forcément, il y a une entente entre ces groupes. Même si il y a des rivalités plutôt d'orgueil, de prestige, etc. Ces groupes ne vont jamais se battre entre eux.
Vous évoquez aussi une secte qui s'implante au Mali, la secte des pieds nus. Quel est ce groupe?
C'est dangereux. Alors, le patron Khali Kanouté, il s'appelait. Il était en prison à Tombouctou avant l'arrivée des djihadistes, parce qu'il purgeait une peine, et puis il a été libéré à l'arrivée des djihadistes. Alors là, il a des milliers de personnes, plusieurs centaines de personnes à travers le Mali, et il est plutôt, lui, pour l'application de la charia, et il a pactisé à un moment avec les djihadistes.
Vous parlez aussi d'un homme qui est en train de monter en grade, c'est Belkacem Zaoudi. Qui est-il?
Belkacem Zaoudi est un Algérien, c'est très intéressant. Il était arrêté par les forces maliennes, et pour libérer des otages européens, les islamistes ont estimé qu'il fallait être libéré. Il a été libéré par le Mali, et aujourd'hui c'est lui qui est en train de faire la jonction entre tous les groupes mafieux islamistes dans le nord du Mali, comme s'il y avait une passerelle entre tous ces groupes islamistes.
Alors concernant maintenant, Serge Daniel, l'enquête sur l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, vous êtes allé enquêter à Kidal, donc dans le nord du Mali, où cela s'est passé en janvier dernier. Qu'est-ce que vous y avez appris?
Alors, ce que j'ai appris, c'est que Baya Kabo, qui est le principal suspect dans l'affaire pour moi, j'ai retrouvé sur les lieux l'endroit où il a acheté, il s'est approvisionné en essence, en carburant avant de faire son coup. Je pense qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, notamment comment l'intervention de l'armée française s'est déroulée. Est-ce que le bruit des avions, des hélicoptères fait peur aux djihadistes? Est-ce que les avions français ont tiré? Pourquoi l'enquête piétine aujourd'hui? Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire.
Et vous dressez donc le portrait de ce suspect que vous évoquez, Bayag Bakabo. Véritablement pas un foudre de guerre, écrivez-vous. Pour quelle raison?
Non, tout simplement parce que ce n'est pas un islamiste pur et dur. C'est un trafiquant. Je parlais tout à l'heure du nord du Mali en parlant de trafic de cocaïne. Il a fait un peu de trafic de cocaïne. Il a été un berger. Il a vendu des animaux. Il a vendu des armes. Il a volé. Entre temps, il a enlevé des véhicules de l'administration malienne qui revendèrent à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et puis, ce monsieur, subitement, il a estimé à un moment qu'il fallait se faire pardonner par Acme avec qui lui en voulait, et puis il a donc décidé son opération.
En France, une information judiciaire a été ouverte le 11 avril, et au Mali, l'enquête avance-t-elle ?
Non, l'enquête avance oui et non. Oui, parce que je sais qu'il y a une volonté, que ce soit le président de la République et les juges, de faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais il faut aller sur le terrain. C'est pas possible parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Ensuite, il y a un problème d'entraide judiciaire entre la France, à mon avis, et le Mali. Mais je pense que avec les derniers développements, ça va avancer puisque les soldats de la MINUSMA seront, comme vous le savez, ils vont être entendus par le juge.
Merci Serge Daniel.
Merci.